Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans le livre des psaumes, psaume 127, et nous lirons simplement les deux premiers versets, versets 1 et 2. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Qu'il m'est agréable de parler dans un micro qui vous permet de bien m'entendre. Merci la technique. J'en profite aussi pour rappeler, car c'est un thème qui m'apparaît être cher aux yeux de notre président de matinée, que nous avons une session de formation à la liberté religieuse qui a démarré jeudi dernier et qui se termine demain à MDE, la Maison de l'Espérance à Paris, lieu que vous connaissez. C'est une formation ouverte à tous et gratuite, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez agréablement surpris par les conférences tenues aujourd'hui par Richard Lehmann, ce soir par Régine Ventrimpont, et qui seront conclues demain par d'autres intervenants. Mais ce n'est pas vraiment de cela que j'aimerais vous parler ce matin, mais plutôt de mon père. Vous connaissez le commandement, honore ton père et ta mère. Alors si vous me le permettez, je vais ce matin honorer un peu mon père. Pourquoi ? Parce que mon papa, qui a bientôt 70 ans, a décidé de redémarrer une activité professionnelle. Il fait partie de ces hommes qui n'arrivent pas à se satisfaire de leur retraite. Les hommes qui ont été très actifs ont été obligés de s'arrêter parce que peut-être ils le souhaitaient, mais qui, au fil des mois, des années, s'aperçoivent que ce nouveau statut ne leur correspond pas et un jour ou l'autre, ils redémarrent quelque chose. Et j'ai trouvé ça assez élogieux, disons-le. En tout cas, au point de vous en parler et de reprendre ce thème que nous avions d'ailleurs déjà, il y a quelques mois, si je ne me trompe, déjà abordé. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et pour en revenir à mon papa et à son expérience professionnelle, c'est là un homme qui, du haut de ses 20 ans, débarqua de son Algérie natale en 62, comprenez pourquoi, dans le sud de la France. Et là, il avait devant lui une alternative, soit la vigne. Le vignoble du Médoc n'était pas très réputé, mais il paraît qu'il a changé. Soit la maçonnerie. En effet, c'est un endroit où l'été, l'on vient d'un petit peu partout, en Europe surtout, pour prendre ses vacances. Et forcément, il faut accueillir toute cette population vacancière, et pour cela, il faut construire. N'ayant aucune connaissance dans le domaine du bâtiment, il commença comme simple plâtrier. De plâtrier, il devient maçon, de maçon, chef d'équipe. Et puis, à 28 ans, il crée son entreprise et développe son entreprise. Ce qui lui permettra, au bout d'une dizaine, quinzaine d'années, d'être à la tête de l'une des plus grandes PME du Languedoc-Roussillon. Ce qui avait pour nous, ces garçons, férus de football, une incidence positive, car voilà que l'entreprise paternelle était sponsor du Montpellier Hérault, club de Louis Nicolin, et vous avez compris que nous pouvions aller au stade comme nous le souhaitions et comme nous étions en ce temps étudiants dans les universités de Montpellier, le tour était joué. Ce qui m'amène maintenant, après ce temps d'honneur paternel à passer à votre serviteur. J'ai acquis de cette expérience dans ma famille, auprès de mon père, le goût des constructions. Ce qui crée d'ailleurs parfois, souvent même chez moi, dans le ministère, une certaine frustration, car on construit beaucoup moins facilement et beaucoup moins rapidement dans l'église qu'on ne construit dans le bâtiment. Il vous faut aujourd'hui en moyenne 6 mois pour réaliser une maison de moyenne importance. Il faut en moyenne pour un bâtiment de 4-5 étages, 9 à 10 mois, avec les techniques actuelles. Pour construire une église, il faut combien de temps ? J'entends non seulement la construction en termes de bâtiment, mais la construction spirituelle. Et cela peut effectivement gérer quelques frustrations, parce que cet héritage qui est le mien. Il est vrai que l'avantage de cet héritage est surtout celui d'une expérience. Une expérience qui me permet de mieux comprendre, je le crois, les réalités dites spirituelles. Un peu comme si la vie pratique éclairait au mieux, très précisément, les réalités spirituelles ou existentielles. Lorsque je regarde un texte biblique, je le regarde un peu à la façon d'un entrepreneur. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, comme bon entrepreneur, ou tout bon entrepreneur, lorsque je suis en face d'un texte, j'essaye d'examiner sa construction. En théologie, nous disons son architecture. Et j'essaie surtout de voir comment ce texte va me construire, m'apporter quelque chose, m'édifier. Et dans cette réflexion, j'intègre comme élément d'analyse des outils, des méthodes empruntées au domaine du bâtiment et de la construction. Je m'explique. Tout entrepreneur sait que s'il veut réaliser correctement le chantier qu'il a signé, pour reprendre une expression chère à ce domaine professionnel, il doit d'abord planifier. Si l'entrepreneur ne planifie pas, il est perdu. Il fera faillite. Grâce à la planification, le temps d'implantation du chantier, qui est un temps crucial, n'est-ce pas, Yann, sera réduit, je dirais. Et le démarrage du chantier pourra se faire en temps et en heure, ce qui évitera en fin de chantier, à cause du retard, d'avoir à payer des pénalités dites de retard. D'autre part, grâce à la planification, l'approvisionnement du matériel sera parfaitement adapté aux besoins d'édification en temps, en heure, en quantité. Enfin, le rendement de la main-d'œuvre sera aussi optimisé et économiquement parlant, l'entreprise y trouvera son bénéfice, son intérêt. Si je raisonne par analogie avec le domaine spirituel ou tout simplement le domaine de la vie, je peux retirer de ces remarques quelques enseignements précieux. Si je veux bâtir ma vie, et particulièrement ma vie spirituelle, je dois m'inspirer de ce qui se fait dans le bâtiment. Je dois, pour ma part, m'inspirer de ce que j'ai vu chez mon père. Nous devons planifier. La méthode est la même. Planifier, c'est d'abord faire un constat. Un constat global. Je dois ensuite établir un échéancier. Qu'est-ce que je dois faire dans le domaine personnel de ma vie, dans le domaine familial de ma vie, dans les domaines sociaux, professionnels, relationnels, quels qu'ils soient? afin d'optimiser tout cela, afin de donner du sens à tout cela, afin de construire quelque chose d'utile, d'intéressant. Je dois donc initialement me livrer au délicat inventaire des états de la situation et des progrès à faire, la construction. Je dirais que dans cette planification existentielle, la planification spirituelle est la dalle de béton sur laquelle la maison va reposer. Qu'est-ce qu'être spirituel ? Nous parlons beaucoup de spiritualité, mais savons-nous de quoi nous parlons ? Si nous lisons la définition donnée par un dictionnaire du mot spirituel ou spiritualité, nous pouvons noter qu'il est de la nature de l'esprit ou encore qui regarde la religion. Et permettez-moi ce matin d'articuler les deux orientations. Tout d'abord, ce qui est de la nature de l'esprit. Deux acceptations. Tout d'abord, ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme, ce que nous comprenons être la dimension spirituelle de l'homme, cette dimension-là, cette noble dimension est impliquée dans la vie spirituelle. Mais encore, le lien à l'Esprit Saint. À la fois l'esprit de l'homme, sa dimension spirituelle, mais aussi le rapport qui s'établit entre cet esprit humain et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu lui-même. Voilà comment être, du moins selon la première partie de la définition que nous avons donnée de la spiritualité, spirituelle. Deuxième partie de la définition qui s'affiche à nous telle une conséquence, s'intéresser à ce qui est d'ordre religieux, être religieux. Le mot « religion » en français vient du verbe latin « religere » qui signifie « être relié à Dieu ». Être religieux, ce n'est pas tant venir dans une église comme nous le faisons ce matin. Ce n'est pas tant se livrer à la pratique de tel ou tel acte qualifié de religieux. Être religieux, c'est essentiellement et personnellement être relié à Dieu. Et vous commencez à comprendre l'articulation entre les deux polarités, du moins orientation. Si mon esprit, si la dimension spirituelle de mon être entretient un rapport étroit avec l'Esprit Saint, eh bien je suis de facto relié à Dieu. Je suis un être spirituel. Et une question s'impose à nous ce matin. Sommes-nous ces êtres spirituels ? Sommes-nous ces enfants de Dieu qui pouvons se réclamer de cette appellation, parce qu'effectivement nous sommes reliés, tel que nous venons de le définir, à Dieu. Si oui, tant mieux. Mais attention de ne pas tomber dans l'autosatisfaction et à terme l'appauvrissement de cette dynamique spirituelle aujourd'hui présente et vérifiée. Et si elle n'est pas là, attention aussi, car nous pourrions courir le double risque du découragement. Peut-être nous nous sommes intéressés il y a quelque temps dans le passé à ces réalités et nous n'avons rien expérimenté, aussi tel Astérix devant les pieds de Jules César, nous jetons bas les armes de la foi. Ou alors nous pouvons aussi, par désintérêt, pensant que ces choses-là n'appartiennent qu'à de doux éliminés, passer à côté de ces réalités? Sommes-nous des êtres spirituels? Si oui, comment le rester? Sinon, comment le devenir? Et c'est là, les amis, que nous devons revenir sur le terrain du bâtiment. Quelle stratégie planifier? Quelle méthode appliquer pour être ou devenir ces êtres spirituels, première pierre de fondation de la construction humaine? Pour pouvoir devenir cela, il me semble que d'abord et avant toute chose, nous devons prendre conscience de la vision de Dieu dans notre vie. Nous sommes ici réunis parce que nous croyons que Dieu existe. Du moins, je l'espère. Et si nous croyons que Dieu existe, eh bien Dieu agit. Et Dieu agit dans nos vies. Il n'agit pas uniquement dans les récits que nous trouvons, dans les lignes inspirées du texte sacré. Il n'agit pas uniquement dans les expériences rapportées par tel et tel frère, telle et telle sœur, souvent étrangers, non seulement à notre communauté, mais à notre pays ou à notre culture. Non, les amis, si Dieu existe, et c'est ce que nous professons ce matin à travers notre présence ici, il doit vérifier son existence dans notre existence à chacun. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur ce premier point de la vision divine dans notre existence, ce que j'appellerai ici les clins d'œil de Dieu. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Ce qui est intéressant dans ce projet de construction, c'est de vérifier que le constructeur, c'est Dieu. Mais comment Dieu peut-il construire quelque chose si dans ma vie, je ne l'expérimente pas, si dans ma vie, il n'y a pas de rapport avec tout du moins ce chef de chantier? Et si ce rapport est nécessaire, voire indispensable, pour pouvoir construire cette habitation particulière que je suis, comment initier quelque chose avec ce Dieu dont nous venons de dire qu'il était vivant et donc agissant dans notre vie? J'en reviens à la notion de clin d'œil divin. C'est ce que j'appellerais une vision immédiate, une vision quotidienne de Dieu dans notre existence. Et encore une fois, permettez-moi de parler de votre serviteur ce matin. Je suis, parce que l'activité professionnelle qui est la mienne, souvent, non pas obligée parce que j'aime ça, mais amenée à lire le texte biblique. Et c'est vrai que parfois je lis et relis des textes et voilà que des lignes d'incompréhension se proposent à moi. Voilà qu'à mesure de ma lecture, mon âme s'active, dirait la Bible. Ma raison. Pourquoi le texte dit cela? Pourquoi ne le dit-il pas comme cela? Pourquoi tel récit est-il rapporté? Quel est l'enseignement caché? Mon âme, dirait la Bible, mon intelligence, dirions-nous, se met en branle. Et à mesure que les interrogations jaillissent, Voilà que mon esprit, celui dont nous avons déjà parlé, la dimension spirituelle de mon être, s'active aussi, parallèlement, corollairement. Elle questionne Dieu. Mais Seigneur, pour toi, as-tu permis telle chose ? Pourquoi sembles-tu dans l'Ancien Testament commander telle atrocité ? Pourquoi avoir permis à celui-ci telle action avec telle conséquence ? Mais voilà, le téléphone sonne, le temps de méditation personnelle est achevé, il faut vaquer à d'autres occupations administratives, par exemple, et vous en restez là. Mais ce qui me surprend, c'est de voir qu'à certains moments de la journée, au-delà de mes activités, ces questions du matin vont ressurgir, spontanément, de façon presque impromptue, dans ma raison, dans mon âme, toujours en émoi. Et la conséquence de cet émoi, l'activation de mon esprit, de ma dimension spirituelle, qui se concrétise par une conversation entre moi et Dieu, ou plus exactement des questionnements de moi à Dieu, se remettent en place. Et ce qui est extraordinaire, et ce que j'interprète comme des clins d'œil de Dieu, c'est que j'obtiens toujours la réponse. Pas forcément le jour même, ou pendant la semaine, parfois au bout de certains mois, mais ce sera dans la parole d'un frère, d'une sœur, à l'occasion d'une école du sabbat, d'une réunion d'après-midi, ou dans un autre contexte, peu importe. Des fois, il ne s'agit même pas de croyants, un voisin. Et vous comprenez à ce moment-là que c'est Dieu qui vous donne la réponse à ces ou sept questions que vous aviez posées. C'est ce que j'appelle le clin d'œil de Dieu. C'est ce qui démontre, me semble-t-il, que Dieu agit dans mon existence. Qu'il n'est pas dans quelque endroit de l'univers inaccessible à la raison et la vue humaine, mais qu'il est bel et bien présent, agissant dans le creuset de mes pensées. Pourquoi je peux dire ça ? Par la joie, le sentiment de quiétude, de sérénité, de tranquillité qui m'habite lorsque je vis ce moment-là. C'est ce que j'appellerai l'édification de l'être. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que je ne suis pas un être exceptionnel. Parce que cette réalité dans mon existence peut être, et je le crois, doit être la réalité de tous. Sommes-nous ouverts à ces clins d'œil de Dieu, à cette vision immédiate, à cette vision quotidienne, à ces interventions de Dieu dans notre existence. Voilà, je le crois, comment devenir spirituel et comment entrer dans ce processus compliqué de construction de l'être, comment planifier une construction achevée et réussie. Je me souviens, pour rester dans le domaine de ces clins d'œil divins, de l'expérience de cette sœur que vous connaissez probablement, qui, alors qu'elle est au début de sa vie de jeune femme, se voit accablée de, non pas toutes, mais beaucoup des misères du monde. Un amoureux qui passait par là lui laisse en héritage le fruit aujourd'hui de ses entrailles. Et apprenant la nouvelle, l'amoureux se transforme en poltron et fuit à l'horizon. Situation difficile, vous le reconnaîtrez. Surtout que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'autre part, professionnellement, socialement parlant, la situation n'est pas au beau fixe. cette aujourd'hui sœur passer dans les marchés parisiens, car elle n'avait pas de formation professionnelle, et était à brûle-pourpoint, si j'ose dire, embauchée par les marchands pour travailler sur les étals de ces marchés parisiens. Situation sociale, professionnelle, précaire et difficile. Et puis, familialement, les choses ne se passaient bien. Bref, rien n'allait bien. Et voilà qu'un jour, cette sœur descend l'escalier de l'immeuble dans lequel se situait son appartement et que, au pied de cet immeuble, la porte de la petite église à laquelle elle ne s'était jusque-là jamais intéressée est ouverte. Et elle ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Elle entre parce qu'elle voit des gens dans cet espace, dans cette salle. Elle entend une voix, probablement celle du prédicateur. Et pour la première fois, elle se retrouve dans un contexte adventiste. Et là, c'est le choc. C'est du moins l'éveil. Elle entend ce prédicateur qui parlait du Christ, probablement. Et la dynamique que je vous expliquais chez moi se met en place chez elle. Pour la première fois de son existence, elle se dit, mais si finalement Dieu existait, si ce qu'on me disait était vrai, si Dieu pouvait agir dans mon existence. Et voilà que la raison se voit complétée de l'esprit. La raison se voit complétée par l'amorce de la foi. Elle questionne ce Dieu qu'elle ne connaît pas encore très bien. Si tu existes, peux-tu intervenir? Si tu existes, pourquoi est-ce que j'expérimente tout cela? Si tu existes, pourquoi toute cette souffrance? Et notre sœur, comme beaucoup d'entre nous, en reste là, suspendue à ces questions. Et voilà qu'un jour, revenant de Paris, se trouvant dans les transports en commun, ne sachant trop pourquoi, elle se remet, si je puis dire, en conversation automatique avec ce Dieu qu'elle vient de découvrir, continuant à le questionner sur non seulement sa réalité, mais l'impact de cette réalité dans son existence. Et c'est une prière qui est presque une colère, qui s'adresse à ce Dieu encore invisible, à ce Dieu dont elle intuite cependant la présence. Et la réponse n'intervient pas. Que reste-t-il à notre sœur? Son doigt. Son doigt qu'elle gratte contre le hublot de la rame de métro. Et là, chers amis, elle trouve indiqué ce que nous pouvons lire dans Jérémie 31, verset 3, gravé probablement au cutter. Je t'aime d'un amour éternel. Imaginez l'impact. L'impact de cette lecture dans l'esprit de celle qui devient à ce moment-là véritablement notre sœur dans la foi. Dieu lui a répondu. Un clin d'œil simple, mais extraordinaire de Dieu. Nous pouvons tous vivre ces expériences. Il n'y appartient qu'à nous de les vivre. Mes chers amis, chers frères et sœurs, quelle planification dans notre vie pour expérimenter cela. Alors tâchons d'être pratiques et en même temps de faire un peu de publicité pour les activités missionnaires de l'église de Savigny-le-Temple. J'aime beaucoup ce dicton qui peut faire sourire ou en gêner certains, il vaut mieux un imbécile qui avance qu'un philosophe qui reste assis. On dit ça chez moi à Agde et je crois qu'on le dit en France un peu partout. Ces petits clins d'œil de Dieu si un jour ou l'autre nous ne nous mettons pas en marche, nous risquons de ne jamais les voir, les ressentir. Et quels sont aujourd'hui les moyens que l'Église notamment fournit, propose pour que nous puissions chacun individuellement, là où nous sommes, nous mettre en marche ? Je crois qu'il y en a beaucoup et parmi ceux-là, il y a l'élan missionnaire. Je disais que je voulais au passage faire un petit peu de publicité pour la campagne d'évangélisation qui démarrera demain à Savigny-le-Temple. La crise, les crises, l'invité sera Gabriel Goléa, que vous connaissez bien, qui avait été l'année dernière l'invité de notre semaine de prière. Il viendra à partir de demain 20h, tous les soirs sauf mercredi, pour animer une conférence dite publique, ce qui permettra à la communauté de Savigny-le-Temple d'inviter ses amis afin d'écouter ce que ce pasteur a à dire. Et nous espérons à travers cela eh bien, enclencher ce mécanisme spirituel que j'essaye de décrire ce matin. Nous pouvons profiter de cet engagement ou d'un autre dans une autre église, si le temps est trop court maintenant, pour planifier quelque chose. Pour, même si l'expression est un peu risquée, mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, si je participe à telle ou telle activité, missionnaire par exemple, pourrais-tu m'aider à expérimenter, à vivre quelque chose de concret, de simple, mais d'édifiant avec toi ? Si par exemple je prévois d'inviter telle ou telle personne dans telle ou telle campagne, comme nous disons, permets que les circonstances de la vie établissent facilement le contact avec ceux et celles que je prévois d'inviter. Permets que je puisse trouver les mots, permets que je puisse comprendre que tu es là à anticiper mon action pour ce besoin, pour cette cause, pour ta cause. Voilà, je crois, un exemple de planification que nous pouvons mettre en place pour entrer dans cette vérification des clins d'œil divins dans notre existence. On pourrait aussi parler, à titre peut-être plus personnel, de la lecture et l'étude du texte saint. En donnant mon exemple, et n'y voyez pas de la forfanterie, mais tout simplement le témoignage d'une activité professionnelle, j'ai cru indiquer qu'à travers la confrontation au texte biblique, on pouvait aussi activer cette mécanique spirituelle, cette dynamique spirituelle. Qu'est-ce que nous pouvons planifier pour lire régulièrement le texte ? En église, chez nous, personnellement, qu'est-ce que nous mettons en place ? Et je pense enfin à la prière. La prière est aussi une activité personnelle, familiale, ecclésiale, autre, qui mérite à être considérée ou reconsidérée, parce que c'est à travers la pratique de cet outil hautement spirituel que nous pouvons aussi déclencher cette mécanique qui fait de nous des hommes, des femmes spirituels. J'aimerais vous donner l'exemple de ce que vivent depuis quelques semaines ces missionnaires que vous connaissez bien maintenant, Gaëtan, Cédric, Mélanie et Gildas, les missionnaires du projet Connecte-toi Auxerre. J'étais avec eux, non pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, jeudi et vendredi, et nous avons décidé avec l'équipe qui encadre ce projet de les accompagner au moins une fois par semaine pour faire avec eux le point et les encourager à travers cette visite hebdomadaire. Et j'écoutais ce que me disaient ces jeunes. Le projet, essentiellement, est d'aller frapper aux portes, et le matin et l'après-midi, pour proposer de la littérature. Et déjà, quelques contacts se sont établis entre ces jeunes et une ou deux personnes d'Auxerre. À tel point que l'une devait venir dans l'appartement où vivent ces jeunes pour pouvoir discuter ou prier, je ne sais plus, avec eux. Mais ce qui m'a intéressé, ce n'est pas tellement ce rapport, ce constat, c'est de voir l'effet que cela avait chez ces jeunes. Ils étaient prêts à enfoncer toute barrière, dans le bon sens du terme. Car ils avaient expérimenté à travers cette expérience, cette réponse quelque part de Dieu à leur prière, autorisée par l'action dans laquelle ils s'étaient engagés. Combien Dieu est bon, combien il est présent. Ils avaient aperçu sur Auxerre la vision de Dieu pour eux. Ces clins d'œil sont possibles à tous ceux qui finalement le désirent et à tous ceux qui, pour passer du désir à la réalité, vont planifier quelque chose dans leur vie. Ces jeunes ont planifié. Ils ont planifié toute une année. Ils ont planifié chacune des semaines de leur année. Ils ont planifié des événements exceptionnels, des événements quotidiens. Grâce à cette planification, ils vivent, ils expérimentent, ils constatent la présence de Dieu dans leur vie, dans leur action. J'en terminerai maintenant. Nous avons aussi besoin de vivre ces clins d'œil de Dieu pour lâcher prise complètement dans nos vies. Nous nous comportons souvent à l'image de ces apprentis voituriers, si je puis dire, encore une fois. Lorsque nous croisons une voiture auto-école, nous imaginons de suite ce que nous avons été lorsque nous avons passé notre permis. Ce conducteur novice à côté du formateur. Si nous voulons construire notre vie, je crois qu'il ne nous faut pas être ces apprentis conducteurs. En effet, quelle est la caractéristique de ces apprentis conducteurs ? Ce sont eux qui conduisent, ce sont eux qui appuient sur les pédales. Ce sont eux qui décident de freiner et qui freinent lorsqu'ils l'ont décidé. Qu'espèrent-ils ? Ils espèrent qu'au-delà de leur choix, et surtout si leurs choix ne sont pas les bons, eh bien le formateur va, car il a les pédales de son côté, et peut par le bras gauche tenir le volant, redresser la situation. Voilà un peu ce que nous sommes, et voilà pourquoi lorsque nous essayons de construire notre vie, notre vie spirituelle, eh bien comme le dit le texte du Nouveau Testament, dès qu'une tempête arrive, la maison s'écroule. Parce que nous voulons nous tenir et seulement laisser Dieu diriger, conduire lorsque tout va mal. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen, qu'une seule méthode pour tout abandonner, pour être capable, en pleine autoroute à 180 km/h, de lâcher les mains et lever les pieds. Et laisser au conducteur, à Dieu, le soin de conduire. C'est ces clins d'œil de Dieu. Aujourd'hui, simplement vérifier dans notre vie. À mesure que nous les expérimentons, nous gagnons en confiance. C'est une sorte de réaction en chaîne qui s'établit dans notre vie, nous amenant un jour à tout abandonner. Vous connaissez ce cantique que nous allons chanter d'ailleurs dans un instant. Flot mugissant, avec Jésus pour mon pilote, tout en moi n'est que paix et bonheur, en sûreté mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon Seigneur. C'est une réalité qui n'appartient qu'à nous de vivre, d'expérimenter. Et pour cela, je suis convaincu, intimement, pour l'avoir vérifié et le vérifier encore, que le Seigneur